J'en viens à l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du paralytique qui a été guéri, qui était infirme depuis 38 ans et que le Christ a guéri de sa paralysie auprès de la fontaine, après de la piscine, après du bassin qu'on appelle des brebis, tout simplement parce que c'est là qu'on nettoyait qu'on lavait les brebis. Avant d'être sacrifié en holocauste. Les trois dimanches qui viennent, celui-ci se passe auprès d'une piscine. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la Samaritaine qui se passe auprès d'un puits, où le Seigneur va demander à la Samaritaine de puiser de l'eau pour lui, pour l'abreuver. Et dimanche d'après, c'est l'aveugle-né qui sera envoyé auprès d'une autre piscine, la piscine de Siloé, après que le Seigneur ait pris un liquide, sa salive en l'occurrence, qu'il aura mélangé avec de la terre pour en enduire les yeux de l'aveugle et lui dire après, qu'après ça, il aille se laver à la piscine de Siloé, qui veut dire l'envoyer, et en se lavant les yeux, la vue lui sera rendue. Trois miracles qui ont lieu avec de l'eau, à travers l'eau. Pour vous expliquer la raison d'être de ces trois évangiles, pendant ce temps de Pentecôte, ces 50 jours qui nous séparent, qui suivent la résurrection, qui suivent Pâques, pendant ces jours-là, l'Église nous présente les éléments, les articles fondamentaux de notre foi. Les trois premiers dimanches, nous avons eu des témoignages directs des apôtres qui avaient vu le Christ ressuscité, qui avaient vu le tombeau vide, qui ont eu l'apparition du Christ ressuscité, et c'est la base de notre foi. La raison d'être des trois dimanche d'eau, si je puis dire, où il y a des miracles avec l'eau, il y en a eu d'autres, c'est pas les seuls, mais c'est les trois qui sont relatés, ont leur raison d'être parce que dans l'Église ancienne, les baptêmes des catéchumènes avaient lieu à Pâques, avaient lieu le grand samedi, le samedi saint. Et à cette occasion-là, on lisait officiellement, pendant des offices qui duraient toute la nuit, avec des catéchèses qui duraient toute la journée, enfin, tout du moins une grande partie de la journée, on lisait les figures dans l'Ancien Testament, les figures de l'Ancien Testament, les figures du baptême et du Christ. Les trois évangiles que nous lisons ces trois dimanches, le miracle avec l'eau, sont en quelque sorte la reprise, la réactualisation de la catéchèse qui a été faite pour les catéchumènes, mais qui pour nous-mêmes, bien que convertis, bien qu'ayant déjà été baptisés, sommes plus ou moins restés redevenus, parce qu'on ne l'était plus avec le baptême, qui sommes redevenus pécheurs, il y a une espèce de, à l'écoute de cet évangile, il y a une espèce de renouvellement de la grâce du baptême qui entre en nous. Que nous apporte le baptême? Le baptême nous apporte une nouvelle vie. Et c'est cette nouvelle vie qui nous est monnayé en quelque sorte, qui nous est présenté avec les trois dimanches aujourd'hui et les deux dimanches qui suivent. Aujourd'hui, l'eau comprenait évidemment l'eau du baptême, mais l'eau aussi de la piscine de Bethesda, où l'ange qui venait faire bouillonner l'eau est la figure de l'Esprit Saint, et le Christ lui-même se présente comme celui qui remplace l'eau, en quelque sorte, celui qui donne l'eau, et qui donne donc la guérison du paralytique en l'occurrence. Cet évangile-là montre que avec l'eau du baptême, la présence en Christ et avec la présence de l'Esprit Saint, la personne est renouvelée. Alors que nous étions comme des paralytiques, que nous étions des hommes sans vie, par le baptême, nous réapprenons à marcher. Nous prenons notre grabat et nous marchons, c'est-à-dire que nous prenons ce qui est lourd, ce qui est trop humain, ce qui est matériel en nous, et il nous est donné de devenir mobile, de marcher. Et ce mystère au sens propre, au sens profond, on va dire, ce mystère ce mystère du baptême nous fait marcher parce que notre paralysie est une paralysie non physique, quelquefois, mais rarement. Notre vraie paralysie, c'est une paralysie spirituelle. Nous voyons les choses d'une manière humaine. Nous voyons les choses d'une manière sentimentale. Nous sommes paralysés. Notre vie n'est qu'une fausse vie, est une vie biologique, physiologique, mais non pas la vraie vie qui est celle de Dieu. Par contre, avec le baptême ou les renouvellements du baptême, nous apprenons à remarcher. Et marcher, c'est-à-dire se donner une destination. Marcher, évidemment, vers le royaume des cieux. Et ce qu'on appelle le royaume des cieux, c'est une vie commune, pas semblable, mais un partage de vie avec Dieu. C'est d'être divinisé. Et là, le baptême nous amène véritablement cette divinisation. À nous de marcher, nous en avons la faculté. De paralysés que nous étions, nous retrouvons la mobilité, mais cette mobilité-là implique aussi que nous prenions notre grabat, que nous prenions ce qui est lourd dans notre nature, ce qui est déchu dans notre nature, et que avec la grâce de Dieu, avec la présence du Christ qui remplace la plongée dans cet évangile-là, la plongée dans l'eau, puisque personne n'était là pour plonger le pauvre paralytique, il y en avait d'autres qui allaient plus vite que lui, évidemment. La présence du Christ nous fait donner la possibilité de marcher avec lui, de l'accompagner et de faire un avec lui. Le dimanche d'après, qui est le dimanche de la Samaritaine, assis sur la margelle d'un puits, le Christ demande à une Samaritaine, à une ennemie, à une hérétique, ou considérée comme telle à cette époque-là, il lui demande de puiser de l'eau pour boire. C'est curieux que, d'abord, que le Christ ne l'ait pas fait lui-même. C'est curieux qu'il s'adresse à une étrangère, étrangère au peuple, étrangère aux élus. Et c'est tellement curieux qu'elle s'en étonne elle-même. Et on y reviendra probablement dimanche prochain. Il y a une équivoque dans le dialogue. Quand la Samaritaine parle comme un paralytique, comme le paralytique, c'est-à-dire voyant les choses d'une manière humaine, elle parle d'eau faite d'un mélange d'oxygène et d'hydrogène. comme de l'eau à boire, parle d'eau à boire. Le Christ lui répond sur une autre eau. Une eau vive, une eau qui donne la vie. Mais pas qui donne la vie comme, de, comme l'eau de pluie qui donne de la vie à un rosier, mais comme une eau de vie éternelle, une eau de la vie de Dieu. Et cet équivoque est intéressant à voir parce que par cette méthode-là, le Christ petit à petit fait élever la réflexion ou le cœur de la Samaritaine vers une autre signification. Et le but de cette... Un des aspects principaux de, cet évangile, c'est cette phrase du Christ « Si tu savais quel est le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire, c'est toi qui aurais soif. » Donc ce dimanche, toujours lié avec la signification du baptême, montre que le baptême nous apprend à avoir soif. Soif d'une autre vie, dont on peut avoir les prémices aujourd'hui, mais qui ne se déploie, qui ne se développe, qui ne se dévoile qu'avec la vision éternelle, qu'avec la participation à la vie éternelle, qui est la vraie vie, qui est la vie mobile à laquelle nous initie l'évangile d'aujourd'hui. Et puis, dans le troisième dimanche, toujours un dimanche de miracle avec l'eau, donc cet aveugle que le Christ guérit à travers la boue qu'il fait avec sa salive et de la terre, et en montrant par là qu'il est véritablement celui qui déjà avait créé l'homme avec la boue, avec le limon de la terre, comme c'est raconté symboliquement dans le livre de la Genèse, et il refait le même acte qu'au début de la création. Il recrée cet homme. Il fait de cet homme, de cet aveugle, un homme nouveau. Et c'est en allant dans la piscine dite de l'envoyé, et l'envoyé, c'est la figure du Christ lui-même, qui est envoyé par le Père, c'est en se baignant, en se lavant les yeux dans ce bassin, dans cette fontaine, que par le moyen de l'eau, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de l'eau, il retrouve la vue. Mais faites attention, ce recouvrement de la vue n'est pas simplement un recouvrement de la vue oculaire, physique. C'est une faculté qui est donnée aux baptisés et que seuls les initiés, si je puis dire, seuls ceux qui se laissent pénétrer par la vie de l'Esprit-Saint peuvent sentir. Les aveugles ne voient justement pas cela. Il n'y a que ceux qui sont des bien-voyants, des bons voyants, comment on peut dire, qui sont capables de voir ces réalités, d'autres réalités, des réalités réelles, si vous me permettez cette expression, des réalités concrètes, existantes vraiment, pas des images, pas de l'imagination, mais qui permet de voir le monde, de voir l'histoire, de voir les personnes, de voir les événements, de voir tout, mais autrement, sous un autre aspect, sous l'aspect de la vie éternelle. La guérison de l'aveugle-né, c'est bien ça. La guérison de l'aveugle-né lui permet de voir, mais autrement. Pas de revoir, mais de voir autrement. De voir ce qui, pour nous, les hommes déchus, est l'envers des choses, qui en fait est l'avers, qui en fait est la face des choses. Nous sommes devenus, par notre péché, nous sommes devenus aveugles. Nous ne voyons plus que les choses physiques, matérielles, sensibles, affectives, rationnelles. C'est-à-dire, on ne voit plus que le monde déchu. Celui qui voit, voit ce qui sous-tend cela. Il voit que ces réalités matérielles, si vous voulez, ne sont que l'image, ne sont que l'opacité ou l'opacification d'une autre réalité vers lesquelles ils peuvent marcher précisément. Et c'est cette vision qui n'est pas une vision ni oculaire ni intellectuelle, mais qui est la vision c'est une vision volontaire, la vision d'un engagement, pas simplement de la réception d'une perception. Mais c'est cet engagement qui permet aux croyants de voir ce qu'ils croient. Ce sont les trois éléments fondamentaux que nous donne le baptême. Marcher, avoir soif, et avoir soif, c'est donc vouloir nous abreuver à la bonne source et voir autrement. C'est pour cela que nous ne devons pas nous étonner que le message chrétien donné par le Christ, transmis par les pères, manifesté par les martyrs et révélé par l'ensemble de l'Église, ne soit pas partagé par tous. Pour avoir cette vision autre, il faut avoir reçu l'Esprit Saint, il faut avoir reçu avoir reçu l'Esprit Saint à travers le baptême, l'avoir alimenté à travers la communion. Toute la raison d'être de notre liturgie, au sens très général du terme, tout le sens de notre engagement dans l'Église, tout le sens de notre foi est là-dessus. C'est la foi, l'Église, c'est une expérience d'un autre monde ou d'un autre aspect de ce monde-là. Si nous n'accédons pas, chacun à notre manière, souvent très humblement, ou je veux dire toujours très humblement, si nous n'accédons pas à cette vision, nous ne pouvons pas nous dire chrétiens. Être chrétien, c'est vivre aujourd'hui le royaume des cieux. Ce qui veut dire nous détacher aussi du royaume de la terre. Quand je vous dis vous détacher du royaume de la terre, je ne vous invite pas à vous suicider pour monter directement dans le royaume des cieux. C'est évidemment pas ça. Mais c'est apprendre peu à peu à renoncer à ce qui est trop humain dans notre vie pour adhérer à ce qui est divin. Ceci est un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint qui dépasse nos forces. Mais que l'Esprit Saint nous permet de réaliser tout de même. Dans les premiers siècles de l'Église, au temps des grandes persécutions, ceux qui se convertissaient avaient un enthousiasme que vous ne pouvez pas imaginer, mais que vous pouvez lire dans le Synaxaire, un enthousiasme pour enfin acquérir le royaume des cieux à travers la mort et à travers le martyr. Ce qui faisait qu'ils ne sortaient même pas, souvent. La douleur, et n'aspirait qu'au martyr pour pouvoir accéder dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il était prêt à renoncer à tout ce qui était de la terre, de la vie avec un petit V, pour connaître la grande vie, la vraie vie avec un grand V, qui est la vie du Christ. Mais ça demandait un renoncement, un renoncement fondamental, notamment un renoncement même à la vie physique. Et nous ne sommes plus, ou pas encore, à une période pour nous, tout du moins ici, parce que ça existe ailleurs, à une période de persécution sanglante. Mais il y a, même si cette persécution sanglante n'est pas chez nous, et nous ne sommes pas confrontés tout de suite, il n'empêche que toute vie chrétienne passe par ce témoignage du martyr, en retranchant, en coupant volontairement quelque chose de notre vie par consécration à Dieu. Quitter, c'est ce que nous exprimons souvent quand nous parlons de l'abandon de sa volonté propre, l'abandon de son ego. Mais quand on parle d'abandon de l'ego, ça fait quelque chose qui est plutôt psychologique ou psychique, si vous voulez, du domaine de la science, du domaine des psys sous toutes leurs formes. Là, il s'agit d'un autre renoncement, d'un renoncement plus profond, vraiment d'une consécration de sa vie à Dieu. Et c'est la seule chose, enfin la seule attitude qui nous permette d'accéder à la paix intérieure, donc au bonheur déjà sur terre, qui se développera, qui se manifestera en plénitude dans le royaume des cieux. Certes, il peut y avoir, nous sommes faibles, et nous ne correspondons pas toujours à la grâce que nous avons reçue par le baptême. Nous marchons quelquefois en arrière. Nous préférons être d'être paralytiques, parce qu'au moins quand on est paralytique, on est couché sur son lit, on n'a pas d'effort à faire. Tandis qu'à partir du moment où nous sommes guéris et nous pouvons marcher, il nous faut prendre notre grabat, et là c'est pas toujours ni facile ni amusant. Et pourtant, imaginez la joie de cet homme paralysé qui retrouve, même s'il faut porter son grabat, quand même sa vie devait être tout de même plus agréable que quand il était paralysé et obligé d'être dépendant de tout le monde. Mais précisément, s'il nous arrive, car ça nous arrive à tous, hélas, c'est ainsi notre condition humaine, s'il nous arrive à tous de redevenir pécheurs, de redevenir aveugles, ou de penser qu'on ne plus avoir soif parce qu'on se satisfait des choses de ce monde, il y a toujours moyen, il y a toujours la sollicitation par l'Esprit Saint de revenir à cette soif, à cette marche et à cette vision par la conversion intérieure, par le retournement intérieur que nous donne le baptême. Bien sûr, on n'est pas baptisé deux fois, trois fois, quatre fois, une multitude de fois à tous les coups où l'on tombe, mais par la relecture des Saintes Écritures, par la mendication des Saintes Écritures, par la réflexion, par l'attention, par la compréhension profonde des Saintes Écritures, ou dans notre prière personnelle ou à l'Église, je dis « ou », mais je devrais dire « et », il y a toujours un ressourcement, au sens propre du terme, un retour à la source d'eau vive, et tant qu'il y a la vie en nous, tant qu'il y a la vie, j'entends la vie biologique cette fois-ci, tant que nous vivons sur cette terre, nous avons toujours le moyen, tôt ou tard, de revenir et de remarcher, de reboire et de revoir. C'est là le secret que nous communique Dieu de la vie éternelle sur la terre. C'est là le secret que les païens pourraient nous envier si eux-mêmes avaient soif. Mais s'ils sont païens ou Ou opposé, si vous voulez, opposé à la fois, volontairement opposé à la fois, évidemment, ils n'ont pas cette soif-là. Mais c'est ce dont le monde entier aurait soif, et notre vocation, si nous ne voulons pas trahir le Christ, qui nous a dit à tous, pas simplement aux évêques ou aux prêtres, allez parmi les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si nous voulons accomplir cette mission-là, c'est en vivant nous-mêmes de ces réalités, donc marchez, ayez soif, buvez et voyez. Et si vous le faites, vous de toute façon, par la grâce de l'Esprit-Saint, c'est communicable et communicant. Nous sommes dans une période difficile où tout est chamboulé, tout est à l'envers. C'est le règne de la confusion. On n'y voit plus clair. Rien n'est plus dans l'ordre ou peu de choses. Seul l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, sauf l'essence de ce que nous annonce le Christ et de la participation à ce que nous annonce le Christ et notre adhésion à cela, c'est-à-dire l'effort aussi qu'il faut faire pour aider, seul cela peut sauver le monde et nous permettre d'accéder au dernier jour dans une vie qui est éternelle et non pas aller vers un effondrement qui ferait que notre vie cesserait dans 3 jours, 6 mois ou 60 ans ou plus, mais qu'elle est véritablement une vie sans fin, une vie éternelle.